Nous poursuivons ce matin notre série sur Moïse avec notre 13e volet. La dernière fois, nous avons considéré le chapitre 16 du livre de l'Exode, où il est question de la manne que Dieu a donnée à son peuple pour subvenir à leurs besoins. Après cet épisode de la manne, le peuple repart, ou plus précisément, Dieu fait repartir le peuple, et c'est ainsi qu'il arrive à Refidim. Le livre des Nombres, au chapitre 33, récapitule les étapes du peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte et nous apprend qu'il y a eu deux autres étapes avant d'arriver à Refidim, Dophka et Alush. Je vous invite maintenant à lire, à suivre la lecture du passage, alors soit dans vos Bibles, dans votre Bible, soit à l'écran où le texte va être projeté. Je suis dans le livre de l'Exode au chapitre 17 et je vais lire les versets 1 à 7. Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin pour ses étapes sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Refidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous le Seigneur ?» Là, le peuple avait soif. Le peuple maugréait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte, si tu nous fais mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur, « Que dois-je faire pour ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. » Prends aussi ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. Quant à moi, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa, provocation, et Meriba, querelle. Parce que les Israélites avaient cherché querelle et parce qu'ils avaient provoqué le Seigneur en disant « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» Nous arrêtons là pour la lecture. Comme les fois précédentes, je vous propose ce matin, dans un premier temps, de passer en revue les différents éléments du texte et puis dans un deuxième temps, nous considérerons quelques prolongements, quelques applications pour nous-mêmes. Après avoir quitté le désert de Sin, le peuple arrive donc à Refidim. C'est Dieu qui l'a conduit là. Le texte précise au verset 1 que cela s'est fait sur l'ordre du Seigneur. Soit Dieu en a donné directement l'ordre à Moïse, soit le peuple a suivi la nuée qui commençait à se déplacer, soit les deux à la fois, peu importe, c'est sur l'ordre du Seigneur que le peuple se met en marche. À Refidim se pose à nouveau, la question de l'eau. Car dit le texte à la fin du verset 1, il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Eh oui, il n'est pas étonnant que le problème de l'eau soit récurrent. Ils sont dans le désert. Et par définition, le désert est aride. Dans le désert, l'eau est rare. Et c'est ainsi que le peuple est à nouveau confronté avec la soif. S'il y a bien quelque chose qui doit mettre les nerfs en pelote, c'est d'avoir soif, c'est de manquer d'eau dans le désert. Boire est vital à notre organisme. Sans eau, pas de vie. Sans eau, pas de survie dans le désert. On peut jeûner pendant plusieurs semaines, mais on ne peut pas tenir plus de 3 jours environ sans boire d'eau. Et encore, ça, c'est dans des conditions favorables. Dans le désert, voici un petit extrait d'un site scientifique, où on trouve à peu près les mêmes choses partout, qui dit ceci: vivre sans manger, c'est possible pendant plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours, à la condition toutefois de continuer à toujours boire de l'eau. Car sans apport hydrique, notre corps ne peut pas espérer survivre plus de 3 jours. L'eau, comme l'un des principaux constituants du corps humain, à hauteur d'environ 60%, est donc encore plus indispensable à notre organisme que la nourriture. La transpiration, l'évacuation des urines et même la respiration nous font perdre chaque jour quelques 2 litres d'eau. Et cette perte doit impérativement être compensée. C'est ce qui se passe lorsque nous buvons de l'eau. Mais si nous en sommes empêchés, notre corps met moins de 24 heures à montrer les premiers signes de déshydratation. Et cela peut être encore plus rapide si le soleil est de la partie ou si par hasard vous êtes allé faire un tour dans le désert. Sans eau, la vie humaine est donc très rapidement en danger. Et si vous ajoutez à cela la fatigue, si vous ajoutez à cela la chaleur, si vous ajoutez à cela les conditions difficiles de vie dans le désert, vous avez une situation explosive. Et l'explosion dans notre texte est sur le point de se produire. Le peuple, dit le texte, cherche querelle à Moïse. Et vous notez que la tension est bien montée d'un cran. Jusqu'à présent, nous avions lu que le peuple contestait, que le peuple murmurait, que le peuple gémissait, que le peuple pleurnichait. Mais maintenant, il cherche querelle. Il veut en découdre. Le ton est monté. L'atmosphère est électrique. Et le peuple exige de l'eau. Donnez-nous ou donne-nous, on trouve les deux dans les manuscrits, de l'eau à boire. Le ton a changé et Moïse l'a bien compris. Si les murmures se nourrissent des circonstances difficiles, du découragement qu'elles engendrent, de la comparaison avec le passé qu'elles stimulent, chercher querelle implique qu'il y a maintenant un certain niveau de colère, un niveau certain de colère. Le peuple veut en découdre, et Moïse le sait. Et c'est la raison pour laquelle il dit à la fin du verset 4 qu'ils sont sur le point de le lapider. Encore un peu, et ils vont bien, et ils vont finir par me lapider. La situation est bel et bien explosive. Moïse va tout d'abord chercher à raisonner le peuple. Verset 2, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? » dit-il. Moïse ne comprend pas l'attitude du peuple. Il ne comprend pas l'attitude du peuple à son égard. Et puis, il ne comprend pas l'attitude du peuple vis-à-vis de Dieu. Toujours au verset 2, « Pourquoi provoquez-vous le Seigneur ?» Moïse sait très bien qu'au travers de lui, c'est le Seigneur qui est visé. Nous l'avons vu la dernière fois. Les murmures contre Moïse étaient en réalité contre Dieu. Le peuple ici a d'une certaine façon passé un point de non-retour. Il n'est plus au stade d'être raisonné. Les paroles ne vont plus suffire. Il a soif. Il se meurt. Il a peur de mourir. Pourquoi donc, verset 3, nous as-tu fait monter d'Égypte si tu nous fais mourir de soif? Moi, mes fils et mes troupeaux. Et le peuple s'en prend à Moïse. Moïse qui, une fois de plus, fait office de fusible, de paratonnerre, de bouc émissaire. Et comme les fois précédentes, Moïse réagit de la bonne manière. Il réagit de la bonne manière en se tournant vers Dieu. Et il crie vers le Seigneur. Lui n'a pas de solution, mais Dieu certainement oui. Moïse le sait. Et dans cette situation, une fois encore, il nous donne un bel exemple de confiance en Dieu. Imaginez-vous un instant à sa place. Pas facile, dans cette situation-là, de rester confiant, calme dans le Seigneur. Pas facile sous la pression des autres de rester dans la confiance au Seigneur. Pas facile quand notre vie est sur la sellette de rester calme dans le Seigneur. Et comme souvent, la réponse du Seigneur a de quoi surprendre. Dieu ne leur dit pas de lever le camp et d'aller jusqu'à la prochaine source ou d'aller jusqu'au prochain puits. Non, il y a beaucoup plus simple. Il va faire jaillir de l'eau de la montagne, d'un rocher. Encore un miracle qui défie la raison. Un miracle qui, par définition, ne se rationalise pas. Un miracle qui s'accepte tout simplement par la foi. Verset 5, Moïse doit prendre avec lui les anciens du peuple. Pourquoi, sans doute ? Pour qu'ils puissent porter témoignage de ce qui va se passer à tout le peuple. 2 millions d'individus environ, ça fait beaucoup de monde. Tous ne verront pas le miracle. Les anciens feront les relais nécessaires. Et puis Moïse doit aussi prendre son bâton, celui avec lequel il a convaincu les anciens d'Israël et ensuite le peuple que Dieu l'envoyait pour les délivrer. Vous vous souvenez, il l'a jeté par terre, le bâton s'est changé en serpent, c'était un des 3 signes que Dieu avait donné à Moïse. C'est avec ce bâton qu'il a frappé le Nil lors de la première plaie pour en changer l'eau en sang. C'est avec ce même bâton qu'il a fait tomber la grêle lors de la 7e plaie et puis qu'il a fait venir les criquets lors de la 8e plaie et puis qu'il a ouvert la mer quelques jours auparavant. Et ce bâton était pour tout le peuple le symbole de la puissance de Dieu, déjà si souvent manifestée. Dieu demande donc à Moïse de frapper un rocher pour que de l'eau en sorte et pour que le peuple et les troupeaux puissent boire. Il fallait vraiment faire confiance à Dieu pour rentrer dans ce projet-là. C'est quand même un peu fou. Nous, on est habitués à cette histoire. On la connaît pour beaucoup d'entre nous depuis tout petit, hein, puisqu'on est tombé dedans quand on était petit. Mais quand même, c'est incroyable. C'est incroyable. Il fallait vraiment faire confiance à Dieu, et c'est ce que Moïse a fait. Et par la suite, pas le temps d'aller dans tous ces textes, mais cet épisode va être cité à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Il va faire référence, en particulier dans les psaumes. Et puis l'apôtre Paul, mais ça on y viendra un peu plus tard, l'apôtre Paul va en donner une interprétation christologique, centrée sur le Christ, dans sa lettre aux Corinthiens. Alors le texte ne le précise pas, mais bien évidemment, une fois que l'eau a coulé, le peuple a bu, les troupeaux ont bu et le calme est revenu. Il fallait très certainement que ce soit un torrent qui sorte de ce rocher pour que tout le peuple, tous les troupeaux puissent s'abreuver. Il est même très probable qu'une rivière se soit formée à cet endroit-là. C'est en tout cas ce à quoi nous font penser les psaumes qui en parlent. Par exemple, le psaume 78, je vous l'ai recopié ici, versets 15, 16 et verset 20. « Il fendit des rochers dans le désert et leur donna à boire de l'eau en abondance, comme celle des abîmes. Du roc, il fit sortir des ruissellements. Il fit descendre de l'eau comme des fleuves. Il a frappé le rocher, l'eau a coulé et des torrents se sont répandus. » Si le texte ne le précise pas, ce qui s'est passé après que Moïse ait frappé le rocher, par contre, le texte précise les noms que Moïse a donnés à cet épisode, à cet événement et à ce lieu, Massa et Meriba. Massa qui signifie provocation ou épreuve, c'est une autre possibilité de traduction. Parce que, dit le texte, les Israélites ont provoqué Dieu en disant « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» Et puis Meriba qui signifie « querelle » parce que le peuple a cherché querelle à Moïse. Je note une dernière chose pour finir ce survol des différents éléments de texte que nous avons dans le récit des 40 années dans le désert, un autre Meriba. Une autre occasion, beaucoup plus tard dans l'histoire du peuple, où Dieu va aussi faire sortir de l'eau d'un rocher. Cette fois-ci, ce sera près de Kadesh Barnéa. Et si vous voulez voir ça chez vous, ça se trouve dans le livre des Nombres au verset 20. Différents points que je vais relever maintenant dans cette troisième et dernière partie concernent essentiellement deux chapitres. Premièrement, la marche par la foi, et puis deuxièmement, l'étanchement de la soif spirituelle que nous avons en Jésus. Premièrement donc, la marche par la foi. Et la première chose que je voudrais dire ici en faisant des parallèles avec notre texte, c'est que marcher par la foi, ce n'est pas réclamer, mais c'est attendre avec confiance. Marcher par la foi, ce n'est pas réclamer à Dieu, bien évidemment, mais c'est attendre avec confiance. Cette étape du peuple d'Israël à Rephidim, et surtout son attitude envers Dieu, nous rappelle que la marche par la foi ne se fait pas à coup de revendications et à coup de réclamations. Dieu nous invite à lui faire connaître nos besoins. Pas besoin d'enfiler un gilet jaune pour les lui faire savoir. La marche par la foi, c'est la confiance, c'est la patience, c'est la persévérance, même quand les circonstances sont contraires, surtout quand les circonstances sont contraires. À Rephidim, le peuple a d'une certaine manière voulu forcer la main à Dieu. La question du verset 2, dans le texte que j'ai lu, qui est la traduction de la Nouvelle Bible Seconde, dit « Pourquoi provoquez-vous le Seigneur ?» Semeur traduit « Voulez-vous forcer la main à l'Éternel ? » Voulez-vous forcer la main à l'Éternel ? Et on peut aussi traduire « Mettez-vous l'Éternel à l'épreuve ?» Ce que le peuple voulait, c'est que Dieu agisse selon ses désirs, quand il voulait et comme il voulait. Et s'il avait pu forcer la main de Dieu à ce moment-là, à n'en pas douter, il l'aurait fait. Le peuple réclamait ce qu'il considérait être son dû, et il le faisait avec force, et il le faisait avec impatience. Mais ça, ce n'est pas marcher par la foi. Croyons-nous que Dieu nous doive quelque chose ? Si c'est le cas, alors nous n'avons pas compris qui est Dieu. Nous n'avons pas compris la nature de l'homme. nous n'avons pas compris ce qu'est la vie chrétienne et ce qu'est la marche par la foi. En réalité, Dieu ne doit rien à personne. Quand il agit en notre faveur, il le fait librement et volontairement. Il le fait parce qu'il l'a décidé, il le fait selon son bon vouloir, selon sa volonté, sans aucune contrainte. Simplement parce qu'il le veut et parce qu'il nous aime. Si Dieu nous devait quelque chose, ce serait de nous juger et de nous condamner à cause de notre péché. Mais il a fait le choix de nous offrir sa grâce. Et aujourd'hui est encore un jour de grâce. Mais si Dieu ne doit rien à personne, si Dieu fait ce qu'il veut, qu'en est-il de nos désirs? Qu'en est-il de nos requêtes? En tient-il seulement compte? En fait, même si Dieu ne nous doit rien, il nous invite dans sa grâce à lui faire connaître nos besoins, nos requêtes, qu'il prend plaisir à exaucer quand ce que nous demandons est conforme à sa volonté. Mais que faire quand Dieu n'exauce pas comme nous l'espérions? Que faire quand Dieu tarde à répondre? Que faire quand Dieu semble silencieux? Que faire quand Dieu semble nous laisser nous épuiser dans l'épreuve? C'est là que nous devons veiller à rester dans une attitude de confiance, de patience, de persévérance et de foi. C'est là que nous devons veiller à ne pas imiter, à ne pas ressembler aux Israélites dans le désert. C'est l'exhortation que Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, va faire à partir de ce texte, en rappelant ce texte du rocher d'Horeb. Je lis 1 Corinthiens 10, versets 1 à 6. « Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés au travers de la mer, ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. » Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher c'était le Christ. Pourtant la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas des désirs mauvais ou des mauvais désirs comme ils en ont eu. Ce sont là, verset 6, des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Comme Israël dans le désert, nous pouvons avoir de mauvais désirs. Nous pouvons oublier les délivrances dont nous sommes les bénéficiaires. Nous pouvons oublier la grâce de Dieu qui a été manifestée pour nous et dont nous jouissons jour après jour et nous pouvons entrer en contestation avec Dieu. Nous pouvons finir par croire que Dieu nous doit quelque chose. Nous pouvons nous tromper de combat et oublier que la marche par la foi, c'est une marche de confiance. Et non pas un bras de fer avec Dieu. Bien sûr, ici-bas, nous ne comprenons pas tout. Nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive. Nous ne comprenons pas tout ce que nous devons vivre et traverser. Bien des choses nous secouent. La vie chrétienne, ce n'est pas le monde des bisounours, n'est-ce pas? Le chrétien, comme les autres, connaît la souffrance dans sa vie. Les injustices existent et j'en passe. C'est pourquoi nous devons veiller, veiller plus que tout sur notre cœur, plus que tout, afin qu'il reste attaché au Seigneur en toutes circonstances, afin qu'il reste attaché à sa parole, même quand Dieu semble ne pas répondre, afin qu'il ne provoque pas le Seigneur, qu'il ne le mette pas à l'épreuve, comme l'ont fait les Israélites à Rephidim. même si la soif se fait pressante. Afin que notre cœur soit toujours en mesure de discerner la présence et l'action du Seigneur dans notre vie et parmi nous. Parce que c'est finalement là le cœur de la provocation des Israélites. Souvenez-vous du verset 7. Parce qu'ils avaient provoqué le Seigneur en disant « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» Ils ne voyaient plus le Seigneur parmi eux. La deuxième chose que je voudrais souligner sur la marche par la foi, à partir de notre texte, c'est que la marche par la foi, c'est transformer nos pourquoi en prière. C'est le prolongement du point que nous venons de développer. Les pourquoi ne manquent pas dans la vie en général, et la vie chrétienne ne fait pas exception à cela. Depuis le départ de l'Égypte, les pourquoi n'ont pas manqué pour le peuple. Et ici aussi, nous l'avons lu, le peuple demande pourquoi, au verset 3. Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte si tu nous fais mourir de soif dans le désert? Le peuple ne comprend pas. Et ça, nous pouvons le comprendre. Parce qu'il nous arrive aussi de ne pas comprendre. Ils sont en train de mourir de soif et ils ne comprennent plus ce qu'ils sont en train de faire là. Pourquoi Dieu les a donc emmenés là si c'est pour mourir de soif? Leur réaction et leur attitude est tout à fait compréhensible. Elle est finalement banale, tout à fait humaine. Nous comprenons le peuple. Nous comprenons les pourquoi du peuple parce que nous avons les nôtres. Nous connaissons tous à un moment ou un autre, une épreuve qui dure, une situation qui nous bouscule. Nous avons tous des requêtes que Dieu n'a pas exaucées comme nous le lui avions demandé. Ce qui m'a toujours réconforté dans le livre des psaumes en particulier, c'est de voir la grande liberté avec laquelle les psalmistes s'approchent de Dieu. C'est de voir comment ils viennent avec leur pourquoi parfois devant Dieu. C'est de voir comment ils transforment d'une certaine manière leur pourquoi en prière et en confiance. Quelle force dans l'épreuve, dans l'incompréhension, que de pouvoir venir à Dieu comme un enfant à son père et lui dire notre incompréhension, lui dire nos craintes, nos doutes, lui dire aussi la confiance qui très souvent cohabite quand même avec tout le reste. Comme le disait le père d'un enfant malade dans les évangiles à Jésus, dans Marc chapitre 9 verset 24, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi ou de mon incrédulité. Je crois, manque de foi, ça ne fonctionne pas trop, mais c'est tellement vrai dans notre vie, si souvent. Les choses sont si mêlées. Seigneur, les circonstances de la vie me font tanguer, me font chavirer. Seigneur, des doutes se sont insinués en moi. Seigneur, tu sais que je crois. Mais tu sais aussi combien ma foi est faible. Seigneur, aie pitié de moi, viens au secours de mon manque de foi, de mon peu de foi. Viens au secours de mes pourquoi, de ma révolte. Garde-moi en toi, au creux de ta main, pour que je ne sombre pas. Quelle force dans notre faiblesse quand nous nous tournons vers Dieu. Quelle force quand nous pouvons transformer nos pourquoi en prière, parce qu'ici-bas, bien des questions restent sans réponse. Un jour, je le crois, dans la gloire, nous verrons et nous comprendrons le plan parfait de Dieu. Mais ça, c'est pour dans la gloire. Et dans la gloire, je crois que ce jour-là, tous nos pourquoi recevront une réponse parfaite. Ne me demandez pas comment, mais c'est en tout cas ma conviction. Mais pour l'heure, nous devons apprendre, avec l'aide du Seigneur, à transformer nos pourquoi en prière et à rester confiants, même quand nous ne comprenons pas. Et c'est ce que Moïse a su faire dans notre texte. La troisième chose que je voudrais dire toujours dans ce chapitre de la marche par la foi, c'est qu'elle n'est possible que par la patience de Dieu à notre égard. Le peuple a mis la patience du Seigneur à rude épreuve. Depuis un an, à peu près, et un mois plus précisément, Dieu n'a pas cessé d'agir en leur faveur. Il n'a pas cessé de les délivrer. Ils ont été témoins des miracles les plus extraordinaires qu'il ait été donné à des hommes de voir. Il faudra attendre Jésus pour voir des choses aussi incroyables. Et pourtant, dès la difficulté suivante, ça recommence comme une litanie, des murmures, des gémissements, des jérémias, des plaintes, des pleurs. Et on peut allonger la liste. Et si Dieu n'avait pas été patient avec son peuple, imaginez, ça se serait terminé très vite. Soit Dieu les aurait tous foudroyés là sur place et puis on n'en parle plus, soit il les aurait fait repartir en Égypte rapidement. Mais Dieu est patient, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous foudroie pas au premier faux pas. Il ne nous rejette pas à la première faute, au contraire. Le Seigneur est plein de compassion pour ses enfants. Souvenez-vous de ce beau psaume 103. Je lis les versets 8 à 14. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse. Il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses fils. Le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alors bien sûr, la patience de Dieu a aussi des limites. Mais Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous ne sommes que poussière. Il sait que nous sommes des êtres faillibles, limités, pécheurs. Et il sait combien nous avons besoin de sa grâce. Chers frères et sœurs, chers amis, que serions-nous sans la grâce de Dieu dans notre vie, sans sa patience? La marche par la foi n'est possible que par la patience de Dieu. Je termine. Je termine avec un seul prolongement dans ce deuxième chapitre, l'étanchement de la soif spirituelle. Il y avait beaucoup de choses, mais ce n'est pas possible de tout aborder ce matin. Et je voudrais simplement ici souligner une chose, c'est que Jésus est celui qui nous désaltère vraiment. Jésus est celui qui étanche vraiment notre soif spirituelle. Et nous revenons ici au parallèle que l'apôtre Paul fait dans sa lettre aux Corinthiens. Je relis le verset 4. « Et ils ont tous bu le même breuvage. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. » C'est un passage très riche, très théologiquement assez compliqué, question de baptême, parallèle avec la mer, etc. Bon, On ne va pas rentrer dans toutes ces considérations. Ce qui m'intéresse ici, c'est simplement de souligner que le Christ prend soin de nous comme il a pris soin du peuple d'Israël en lui donnant la manne et en lui donnant de l'eau. Et Paul dit ici aux Corinthiens que ce rocher qui a donné de l'eau à Horeb, à Rephidim, c'était le Christ. C'était le Christ qui était en train de prendre soin de son peuple. Que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle, Jésus est celui qui prend soin des siens. Pour Israël, dans le désert, il était ce rocher qui les abreuvait, qui les désaltérait. Pour nous, il est le bon berger qui nous conduit près des torrents d'eau, qui nous conduit dans de verts pâturages. Jésus est celui qui prend soin des siens. Il les conduit, il les soigne, il les protège, il les nourrit, il les abreuve. Il fait tout ce qu'un berger fait et il le fait à la perfection. En parlant de l'eau qu'il donne, Jésus va dire dans l'évangile de Jean que celui qui vient à lui n'aura plus jamais soif. Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Notre soif spirituelle est étanchée quand nous mettons notre foi en Jésus. Celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif, dit Jésus. Et à la Samaritaine, Jésus disait, chapitre 4 de l'évangile de Jean, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Ça, c'est l'eau qu'ils étaient en train de puiser. « Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » L'étanchement de la soif dont parle Jésus ici, c'est avant tout le salut. C'est la vie éternelle que Dieu nous donne. Et quand nous venons à Jésus par la foi, la soif de notre âme est étanchée. Ça ne veut pas dire que toutes nos aspirations disparaissent, mais la soif de notre âme est étanchée, parfaitement étanchée. Plus besoin de chercher autre chose ou de chercher ailleurs. En Jésus, nous sommes comblés. En Jésus, nous avons le vrai repos. Nous avons la paix parfaite. Nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons la vie éternelle. Et notre soif est étanchée à jamais. Le monde essaye sans cesse de nous faire croire le contraire, de nous faire croire que nous avons besoin d'autre chose, de nous faire croire que ailleurs nous allons étancher d'autres soifs qui sont en nous, nous faire croire que par Jésus, notre soif n'est pas vraiment étanchée. Mais tout cela n'est que mensonge. N'est que fausse piste, ce ne sont que des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau et qui ne peuvent pas nous désaltérer. Nous chantons souvent le chant Ta bienveillance. Vous avez en tête ce que dit le refrain de ce chant ? Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Est-ce que vous avez déjà réfléchi un instant à ce que vous chantiez quand vous chantez cela ? Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Quand nous chantons cela, nous disons que rien ne nous désaltère comme Jésus, que rien n'est comparable à ce que Dieu nous offre en Jésus et par Jésus. Le croyons-nous vraiment ? Sommes-nous déjà venus nous désaltérer à cette source d'eau vive ? Si c'est le cas, sommes-nous parfois tentés d'aller boire ailleurs, d'aller encore boire ailleurs ? Le Seigneur veut nous aider à trouver en lui notre pleine satisfaction. Nous pouvons venir à lui jour après jour, nous pouvons le faire ce matin pour recevoir son eau vive, son salut, la vie éternelle qu'il nous offre par Jésus. Si nous avons déjà été si nous avons déjà été désaltérés en Jésus, nous l'avons déjà fait ce matin, continuons à louer et adorer Dieu pour le salut merveilleux qu'il nous a fait. Si nous sommes tentés d'aller trouver un étanchement à notre soif ailleurs, nous pouvons demander à Dieu de venir à notre secours. Car Jésus est le seul qui peut véritablement répondre à notre besoin de salut et étancher notre soif pour l'éternité, parce que sa bienveillance vaut mieux que tout ce que nous pouvons trouver ailleurs. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.